Alors, voici l'amphi de restructuration sur les formulations variationnelles. Donc, la première chose, c'est que le bon cadre fonctionnel pour les formulations variationnelles que nous avons vu est celui des espaces de Sobolev. Donc, les espaces de Sobolev, on les a vus pour des fonctions qui sont L2 et dont toutes les dérivées jusqu'à un certain indice, un certain entier K sont L2. Donc, ici, les dérivées qui sont comprises sont a priori au sens des distributions. Et ça, c'est bien possible de parler de la dérivée de f, car f étant une fonction L2, et en particulier L1 log, et donc elle induit une distribution. Et la distribution qu'elle induit naturellement, c'est donnée par un crochet de dualité, où c'est bien l'intégrale de f contre phi. Donc ça, c'est pour la distribution induite par f. Ensuite, les dérivées de f ne sont plus nécessairement des fonctions. On peut faire apparaître des masses de Dirac, comme on a vu en exercice, à force de dériver f. Et donc, il faut vraiment parler de la dérivée de f au sens des distributions et ne surtout pas écrire que l'action d'une dérivée de f est donnée par une intégrale d'une fonction contre une fonction test. A priori, c'est quelque chose de plus général. Donc ça, c'est ce que je commente ici en disant que, attention, la dérivation peut faire apparaître des fonctions qui ne sont pas L2, soit parce que ce ne sont même pas des distributions comme ces masses de Dirac, ou soit parce que ce sont des fonctions qui ont des singularités qui sont un petit peu fortes. Voilà. Alors, on a des résultats de densité et de non-densité, et donc il est important de les avoir en tête. La première chose, c'est que donc sur tout l'espace, où vous avez les fonctions H1, en fait, sont induites par des fonctions qui sont C-infini à support compact. C-infini plus support compact. Et donc, comme ça, on atteint effectivement toutes les fonctions de H1. Ça, c'est sur tout l'espace. Maintenant, ça c'était le cas simple. Quand on est sur un domaine borné, il faut distinguer deux cas. Donc, si on a un domaine AB comme ça, et si on considère l'ensemble des fonctions infinies sur AB, donc ce sont des fonctions qui ne sont pas nécessairement nulles au bord. Ça, cet ensemble de fonctions, ça permet en effet d'atteindre l'ensemble des fonctions de H1 de AB. Donc ça, parce que dans H1 de AB, on a des fonctions qui valent ce qu'on veut sur les bords. Et ces fonctions-là en particulier, là, je rappelle que les fonctions de H1 de AB, c'est aussi des fonctions qui sont continues sur le segment fermé AB. Maintenant, du coup, la situation plus intéressante, c'est le cas où on a des fonctions qui sont C-infinies à support compact, mais sur l'ouvert AB. Donc dans ce cas-là, ce sont des fonctions qui partent de 0, qui font ce qu'elles veulent ensuite, mais ensuite qui doivent revenir à 0 sur les deux côtés. Et donc là, si on prend la fermeture dans cet ensemble, on n'a pas densité dans H1 de AB. Donc ça, attention, l'ensemble des fonctions C-infini à support compact n'est pas dense dans l'ensemble des fonctions de H1 AB, parce qu'il manque ces fonctions qui peuvent valoir éventuellement quelque chose d'autre que 0 sur les bords. Et donc ça motive la définition de H1 0 de oméga comme étant la fermeture de d oméga pour donc des fonctions C-infini à support compact pour la norme H1. Et on voit qu'en fait, ça correspond simplement aux fonctions de H1 dont les valeurs au bord sont nulles. Et ce qui est agréable, c'est que sur cet espace, donc si on a un domaine qui est borné, donc typiquement donc en dimension supérieure, ça correspond à un domaine oméga comme ça, un ouvert borné. En dimension 1 sur laquelle on est, c'est le cas typique, c'est celui d'un intervalle ouvert AB. Éventuellement, on peut parler de réunion d'intervalle, mais là, on fait vraiment les choses sur juste cet intervalle ouvert. Donc à ce moment-là, si on a un domaine qui est borné, on a bien une inégalité de Poincaré qui nous permet de contrôler la norme L2 de la fonction par la norme L2 de la dérivée. Et attention ici, donc c'est bien une norme L2 des deux côtés. Et ça, cette inégalité-là de Poincaré en particulier, ça va impliquer un contrôle de la norme H1. La norme H1 de U, ça va être plus petit que racine de 1 plus C oméga au carré, la norme U' de L2. Donc en fait, on a équivalence entre la norme H1 et la norme qui est induite par prendre la norme L2 de la dérivée de la fonction. Et donc ça, c'est grâce à cette inégalité de Poincaré. Et une fois de plus, je rappelle que, attention, tout ceci n'est valable que si l'ensemble est borné. Je ne veux pas voir d'inégalité de Poincaré avec des ensembles non bornés. Voilà, donc ça c'est un premier espace particulier. Et du coup, une fois qu'on a H1 0, on peut définir l'espace H-1 de oméga, qui est défini par dualité. Donc on va considérer le crochet de distribution entre T et une fonction test de la distribution T est une fonction test de D de oméga. Et on va dire que c'est un élément de H-1 si on a la propriété de continuité, que le crochet de dualité peut s'estimer par une constante fois la norme H-1. Et donc ça, en particulier, ça vous dit que T, en effet, est une distribution. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc je vous laisse faire en exercice, il faudrait prendre un cas compact, un ensemble cas compact, il faudrait prendre phi dans dk de oméga, et du coup, il faut du coup voir qu'on peut majorer la norme H1 de phi par une certaine constante qui va dépendre de k fois un sup de dérivée. Voilà, je vous laisse finir l'argument, c'est un très bon exercice. Voilà. Donc ça, cet espace H-1, on a vu que c'était le dual de H en 0. C'est le dual parce qu'en fait, ici, on agit que sur des fonctions qui sont phi, c'est infini à support compact, et on prend une fermeture pour la norme H1. Donc l'ensemble des fonctions sur lesquelles on peut agir à la fin, ce sont des fonctions H1, 0. Et donc ça, ça permet de définir un crochet de dualité entre H-1 et H1, 0, qui est obtenu à partir de cette formule, en passant par densité dans H1. Donc ça permet de définir un crochet de dualité entre H-1 et H1, 0. Et on a que du coup, on a que l'inégalité qu'on avait au-dessus pour les fonctions C infini à support compact peut en fait s'étendre à l'ensemble des fonctions test H1, 0. Et on a ce résultat-là. Et si on veut être précis, en fait, ici, là, cette constante C, on peut en fait, c'est en fait la norme, on peut la prendre égale à la norme H-1 de T, avec la définition de cette norme H-1 qui est la norme de la fonction linéaire associée, comme on a vu dans le chapitre 4. Bien, donc une fois qu'on a ces espaces de Sobolev, on peut passer aux formulations variationnelles. Et donc le résultat le plus important, c'est le théorème de l'axe Milgram, dont je vous demande d'appliquer, de bien vérifier toutes les hypothèses quand vous l'appliquez en pratique. La première chose, c'est qu'on travaille sur un espace qui est un espace de Hilbert. Donc ça, par exemple, H1 de oméga, H1, 0 de oméga, ce sont des choix typiques. Mais éventuellement, il y a un exercice du coup où on peut utiliser H2 de oméga, etc. Donc a priori, donc un espace de Hilbert. Et ce que vous voulez, c'est que vous avez une forme qui est bilinéaire. Donc ça, c'est souvent très facile à montrer. Il ne faut surtout pas perdre de temps à le prouver. Mais donc elle est continue, donc continue au sens suivant. Attention, donc c'est la continuité d'une forme bilinéaire. Il y a deux arguments U et V. Et donc au membre de droite, ce qu'on veut, c'est le produit des normes, de la norme de U pour le produit scalaire de grand V et la norme de petit V dans le produit scalaire de grand V aussi. Donc ça, c'est la continuité pour cette forme bilinéaire. Et la coercivité, c'est de dire qu'on ne veut que A de UU soit plus grand qu'une certaine constante alpha strictement positive ici. Alpha strictement positif, fois la norme de U de V au carré. Et ici, attention, c'est pas de valeur. Ici, il n'y a pas de valeur absolue. Hein. C'est bien A de UU que je considère. Donc ce n'est pas valeur absolue de A de UU, c'est A de UU en soi. C'est une quantité qui doit être positive et qui doit même être bornée inférieurement par une constante strictement positive, la norme de U dans V au carré. Une chose aussi sur laquelle je n'insisterai jamais assez, c'est que attention à la norme que vous utilisez ici pour la coercivité. Donc si vous êtes sur H1, je veux voir ici une norme H1. Je ne veux pas voir de norme L2, je ne veux pas voir de norme de U' dans L2, je veux voir vraiment une norme H1. Et puis pareil ici, pour les bandes supérieures, c'est la norme de V, de l'espace V qu'on considère. Mais souvent ici, c'est un petit peu plus simple d'avoir ces majorations-là. C'est vraiment... En pratique, c'est souvent la coercivité. Ça, c'est souvent ce qui est dur en pratique. Souvent, je dis pas toujours, mais c'est souvent le point le plus dur. Bon, l'autre chose qu'il faut, c'est que la forme linéaire B soit continue sur V. Et donc, continue sur V, c'est au sens usuel, c'est-à-dire que valeur absolue de... C'est une forme linéaire, donc c'est valeur absolue de B de V. Doit être plus petit, qu'il doit y avoir une constante grand B, telle que ça, c'est plus petit que V fois dans la norme de grand V. Là, pareil, la linéarité est souvent évidente. Et la continuité, c'est la continuité d'une forme linéaire, comme on a vu dans les chapitres précédents. Dans ce cas-là, le théorème de l'axe Milgram vous dit qu'il existe effectivement une unique solution au problème variationnel qui est chercher un certain U appartenant à V, tel qu'on a l'égalité entre A de UV et B de V pour tous les V dans grand V. Donc en cours, on a fait la preuve de ce théorème de l'axe Milgram dans le cas où la forme bilinéaire A est symétrique. Et donc on a pu passer par un produit scalaire équivalent et un théorème de Ries. La preuve du cas général est un petit peu plus compliquée, mais j'encourage ceux qui aiment les mathématiques à la faire. Elle est en exercice supplémentaire. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y a un lien avec la mécanique, au sens où dans le cas où A est symétrique, il y a une formulation variationnelle qui est associée au théorème de l'axe Milgram. Et on peut montrer en fait que cette condition, ici, là, c'est la condition d'Euler-Lagrange. Donc ça fait un lien à la fois avec le cours de mécanique et le cours d'optimisation. C'est la condition d'Euler-Lagrange du problème d'optimalité J de U égale 1 de JV. Voilà. Et donc ça, dans la preuve de l'exercice où on a montré qu'effectivement il y avait cette interprétation énergétique, c'est une condition qui sort et je vous encourage là aussi à bien vous convaincre que c'est une condition d'Euler-Lagrange qui sort. Voilà, et donc du coup, je peux vous faire un mot sur le raisonnement type à avoir face à ce genre d'exercice, enfin face aux exercices qui est, je pars d'une équation aux dérivées partielles, donc le cadre typique c'est je pars d'une équation aux dérivées partielles LU égale F, par L c'est un opérateur différentiel, par exemple, ici ce serait quelque chose, je ne sais pas, U seconde plus A fois U prime plus BU égale F. Ça, ce serait mon opérateur L, ce serait cet opérateur. Voilà. Donc, du coup, je voudrais résoudre cette équation dérivée partielle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par proposer une formulation faible. Et donc, ça, c'est quelque chose que, typiquement, on va faire avec des calculs formels, qu'idéalement, je ne voudrais pas voir sur la copie. On va directement proposer quelque chose. Par exemple, dans ce cas-là, ce que je vais... Donc la notation A ici n'était pas forcément bienvenue, puis B non plus. Donc je vais peut-être plutôt parler de alpha ici et de bêta là, donc qui sont des fonctions. Ce que je ferai typiquement, c'est que je proposerai une formulation A de UV égale intégrale de U'V' plus alpha U'V plus bêta UV. Et puis un B de V qui serait l'intégrale de FV. Voilà, donc ça c'est les calculs. Parce que j'ai l'habitude, je sais que ça va être ça. Mais je vous encourage à vérifier que c'est ce que vous auriez proposé spontanément aussi. Donc là, j'ai même pas fait de calcul formel, mais bon, je prétends que ça va être un bon choix. C'est un bon choix si ici je mets un moins. Et là, en fait, avant de faire ça, j'aurais aussi dû préciser un peu l'espace fonctionnel. Donc si je dis que en fait, c'est cette équation dérivée partielle sur un domaine borné AB, et puis que je veux U de A égale U de B égale 0, je vais me placer typiquement sur un espace grand V qui serait H1, 0 de AB. Bon, maintenant, du coup, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, je vous encourage à faire beaucoup d'exercices dans le chapitre 8. Il y en a plein, et à force, vous prendrez un petit peu l'habitude et vous serez un petit peu rassuré. Donc ça, c'est la première partie, proposer une formulation faible. Deuxième partie, il y a une équivalence de la formulation faible avec le DP initial. C'est-à-dire que quand on a une équation dérivée partielle initialement, on ne dit pas trop dans quel sens elle est posée. Donc ça, typiquement, dans les cours de science, enfin dans les cours qui ne sont pas des cours de mathématiques, on vous donne des équations, puis on ne vous dit pas que est-ce que cette équation, est-ce que l'égalité ici, elle a lieu dans C0, dans D', dans L2. Enfin, c'est pas, ça fait partie de la question. Donc typiquement dans ce cours, on va travailler avec F qui n'est pas continu. Par exemple, quand vous avez un problème de thermique, le problème du radiateur qui est tellement de saison, vous avez des radiateurs dans une pièce, la fonction F, le terme source, c'est typiquement l'indicatrice d'un sous-ensemble oméga du domaine oméga de base. Donc ça serait mon domaine grand oméga, puis j'aurai un sous-ensemble oméga où j'ai du forçage. Donc c'est les fonctions F qui ne sont pas... qui sont par exemple L'infini, L2, mais qui ne sont pas continues. Et donc, on ne peut pas s'attendre vraiment à avoir une équation ici de départ qui soit satisfaite avec une égalité au sens des fonctions continues. Donc, la remarque, ce qu'on a fait dans ce chapitre, c'est de voir qu'un bon sens pour interpréter ce genre d'équation, c'est de regarder une égalité au sens des distributions. Donc ça, pour passer de la formulation variationnelle à une équation des distributions au sens des distributions, c'est assez simple. En fait, il suffit de prendre des fonctions test phi dans D de oméga à partir d'une égalité du type A de UV égale B de V. En fait, cette égalité-là, on va la particulariser en fait, à des fonctions qui sont C infini à support compact. Et donc après, on va faire des manipulations au sens des distributions. Et je dis bien vraiment au sens des distributions, pour justifier que, de manière rigoureuse, on passe de la formulation variationnelle à une formulation au sens des distributions. Donc ici, quand on fait quand vous avez des manipulations, vous allez avoir par exemple des termes du type U', Φ' qui vont apparaître, avec Φ qui va être ça infini à support compact. Et donc ça, il faut commencer par me le réécrire comme un crochet de dualité U', Φ', avec une dualité au sens de distribution, parce que, et ici ça marche, cette égalité, c'est vraiment lié au fait que U', enfin il faut avoir justifié a priori que U' est dans L1 lock, et ensuite vous pouvez faire de la dérivation au sens des distributions, là ça ne pose plus de problème. Voilà, mais donc ici dans cette partie de la formulation variationnelle vers le DP, je ne veux surtout pas voir d'intégration par partie, sauf si bien sûr toutes les fonctions en jeu étaient C1. Donc ensuite, pour passer de l'EDP à la formulation variationnelle, typiquement, on remonte simplement les calculs précédents. On part de la forme de l'égalité sans distribution, on met en dualité contre les fonctions test, on fait des manipulations, et ensuite on réécrit le crochet de dualité comme une intégrale, et souvent on est ramené à la formulation variationnelle, sauf qu'on a la formulation variationnelle pour des fonctions test qui sont seulement dans D de oméga. Et donc là, il faut un argument final qui permet de passer en densité et qui permet de retrouver l'égalité pour toutes les fonctions de l'espace de Hilbert V. Donc il faut des résultats de densité de D de oméga dans grand V et puis un petit peu de travail sur, pour montrer la continuité des fonctionnels en jeu. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté comment je montre l'équivalence entre ma formulation faible et mon EDP. Et ça, ça permet de ramener l'étude de l'EDP à l'étude de la formulation faible. Et pour la formulation faible, du coup, là, on a des outils, on a vu des outils pour l'étudier, et en particulier le théorème de Lax-Milgram, qui est un bel outil pour vous montrer qu'une formulation faible est bien posée. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez des fonctionnelles A qui sont coercives, ce qui est souvent le point dur de la méthode. Mais bon, il faut malgré tout vérifier toutes les autres hypothèses, que A est bien bilinéaire continu, etc. Donc ça, pour ceux qui aiment les mathématiques, vous verrez qu'il y a des extensions de ce résultat parce que toutes les fonctionnelles ne sont bien sûr pas coercives dans la vraie vie, en particulier dans les problèmes de mécanique. Et il y a des extensions et des formulations infsup, mais je laisse ça à mes successeurs, aux enseignants que vous aurez dans les cours de maths suivants. Alors, pour finir, un petit mot sur l'organisation. Donc attention, la fin du semestre n'est pas encore là, ce n'est pas encore Noël, et donc il faut continuer à travailler le cours, à venir assidûment en séance, et aussi à bien assimiler le contenu des séances précédentes. Vous commencez à voir qu'on utilise des résultats à la fois sur les espaces de Lebesgue, aussi sur les applications linéaires, de la complétude. Enfin, il faut avoir vraiment tout le cours en tête. Et donc pour l'examen, il faut avoir tout le cours en tête, sauf le chapitre EDO. Hein. Le chapitre EDO, là, je vous annonce déjà que c'est un chapitre dont vous n'aurez pas besoin le jour de l'examen, mais à part ça, vous aurez besoin de tout. Donc pour vous aider, donc ce matin, vous avez eu une distribution d'un sujet de TP. Donc déjà, je vous encourage à vérifier que le code fonctionne chez vous, et sinon, à demander assez rapidement à vos enseignants de vous aider à le faire tourner. Et il y a une première date de rendu qui est le 16 décembre où il faut avoir fait le rendu écrit des questions 1 à 3 et attention, c'est long. J'insiste, c'est long et donc je vous encourage à vraiment anticiper le travail sur ce TP. Et c'est d'autant plus important de l'anticiper que ça sert de préparation à l'examen et que ceux qui ont bien préparé ces questions généralement réussissent mieux à l'examen que les autres. Et la dernière question, elle, sera rendue le lundi 13 janvier dans votre copie d'examen, comme pour le TP précédent. Et pour vous aider là-dessus, donc à la fois sur la question 4, qui n'est pas si facile, qui prend un peu de temps, et la révision de l'examen, il y a un TPA le 6 janvier, qui on aura un beau créneau dédié en semaine, et pas le vendredi après-midi. Et je vous encourage là aussi très vivement à y assister et à venir avec toutes vos questions, après des vacances potentiellement un peu studieuses pour réviser les différentes matières avant les examens de la rentrée.